Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
Jésus racontait à ses disciples cette parabole. Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé parce qu'il gaspillait ses biens. Il le convoqua et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends-moi les comptes de ta gestion, car désormais tu ne pourras plus gérer mes affaires. » Le gérant pensa « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gérance? Travailler la terre, je n'ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, je trouve des gens pour m'accueillir. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier « Combien dois-tu à mon maître ?»« 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit « Voici ton reçu, vite assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre « Et toi, combien dois-tu ?»« 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit « Voici ton reçu, écris 80. » Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge. Effectivement, il s'était montré habile, car les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien, moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans toute petite affaire est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est trompeur dans une petite affaire est trompeur aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance avec l'argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour des biens étrangers, le vôtre, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il détestera le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs, la liturgie nous offre de beaux textes pour méditer sur notre rapport par rapport au bien. Et dans la première lecture, le prophète Amos est toujours très très concret, d'autres passages aussi très parlants. Et là aussi, le petit passage qui nous est donné aujourd'hui est assez parlant. On voit ces gens qui ont l'esprit très préoccupé, c'est pendant la nouvelle lune, donc c'est chômé. Mais alors, ils n'ont pas l'esprit à se reposer. On voit, ils se projettent déjà, ils attendent avec impatience la fin de ce temps chômé pour de nouveau faire leur commerce, faire leur business. Mais ils ont l'esprit très occupé par... par le commerce qu'ils pourront faire après, et puis ça dégénère même en malhonnêteté. Mais ces images très concrètes du prophète Amos peuvent nous aider aussi, parce que je pense que tous, à tel ou tel moment, nous pouvons avoir l'esprit assez occupé par des choses très matérielles. Et à force de se soucier pour des questions matérielles, peut-être que notre esprit peut être même accaparé par l'argent. Et un jour, justement, l'argent prend la première place. Dans l'Évangile aussi, donc, il est question de ce rapport avec les biens. Donc, on voit ce gérant. Alors, bien entendu, Jésus n'admire pas et ne félicite pas sa malhonnêteté, bien sûr. mais plutôt l'habileté. Alors, ce qui est intéressant, c'est le jour où il est au pied du mur, où il commence à réfléchir. On a l'impression qu'avant, bon, il gaspillait, mais un peu insouciant, et puis il réfléchissait pas trop. Mais le jour où il va être au pied du mur, alors là, il est bien obligé de dire, qu'est-ce que je vais faire? Mon Dieu, j'aurais honte de travailler, c'est fatigant, et puis j'aurais pas la force. Bon, alors il trouve un stratagème. Mais là aussi, c'est intéressant de... Et alors, Jésus loue cette habileté, ce moment où il se met à réfléchir, en tout cas. Alors après, les moyens, pas forcément... Jésus n'approuve pas forcément les moyens exacts que prend ce gérant, mais plutôt ce fait qu'il prend un peu de recul. Et dans cette circonstance, on voit très bien que l'argent... Il s'en sert comme d'un moyen. Et alors, c'est quelque chose de tout simple en un sens, mais que les biens matériels soient de l'ordre des moyens, non pas de l'ordre de la finalité, du but, mais de l'ordre des moyens. D'ailleurs, la sagesse populaire dit habituellement quelqu'un qui est aisé, qui est riche, il a les moyens, on ne dit pas il a la fin, il a le but, il a la finalité, on dit juste il a les moyens. Et Jésus nous parle de cet argent trompeur. Et l'argent peut être trompeur de deux manières, justement parce qu'il se présente comme une finalité, alors qu'il n'est qu'un moyen. La première manière dont il peut nous tromper, l'argent, c'est penser que finalement... en faire le but, alors que notre vie, elle s'arrêtera bien un jour, et dans notre cercueil, a priori, on n'emportera pas beaucoup de richesses. Vous connaissez peut-être cette expérience d'un homme assez riche. Il avait beaucoup de richesses et il avait mis sur son testament qu'il voulait être enterré avec toutes ses richesses. Et alors, sa femme était un peu ennuyée, elle ne savait pas comment elle pourrait vivre après aussi. Et puis, alors son fils qui réfléchissait comme ce gérant, dit « T'inquiète pas maman, je vais arranger les choses ». Donc ils ont fait un chèque du montant de toutes ses richesses et ils l'ont mis dans son cercueil. Donc il est enterré avec toutes ses richesses. Mais donc l'argent, première façon dont il peut nous tromper comme but, alors que nous ne sommes pas faits pour la terre, pour ce qui est matériel, nous sommes faits pour Dieu. Ça, c'est une première façon dont l'argent peut nous tromper. Et une deuxième façon dont il peut nous tromper, c'est que, hélas, ça peut arriver, que l'argent nous renferme sur nous-mêmes dans une sorte d'égoïsme, alors que l'argent est plutôt au service de la communion, de la communion des personnes. Alors c'est précisément sous ces deux aspects que peut-être l'évangile de ce jour peut éclairer le moment que nous allons vivre dans quelques minutes. Dans quelques minutes, il y a un certain nombre de familles qui sont présentes et qui vont s'engager auprès de la communauté sous le titre de « Famille du Père Lamy ». Et alors cet engagement signifie aussi que des familles veulent s'appuyer sur une communauté religieuse. Et pourquoi ? Dans la vie de l'Église, la vie consacrée a une commission très particulière de nous rappeler que nous sommes faits pour le ciel. Et alors hier, nous avions cette grâce d'être dans cette chapelle réunie pour les vœux perpétuels de frère Raphaël. Mais par notre vœu de pauvreté, nous désirons affirmer que le seul bien qui vaille la peine qu'on lui consacre toute notre vie, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Et sans cette perspective du ciel, nos vœux perdent tout leur sens. Ça n'a pas de sens de faire vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance s'il n'y a pas le ciel. Alors la vie consacrée nous rappelle que la finalité ultime, c'est Dieu. Mais la vie familiale aussi nous rappelle quelque chose, et ce serait plutôt le deuxième aspect sous lequel l'argent peut nous tromper ou il peut nous enfermer sur nous-mêmes, alors que la vie familiale, c'est justement, elle nous rappelle que le visage de Dieu est amour. Alors Jean-Paul II l'écrivait de façon très très belle dans son exhortation apostolique sur la famille. En définitive, l'essence de la famille et ses devoirs sont définis par l'amour. C'est pourquoi la famille reçoit la mission de garder, de révéler, de communiquer l'amour, reflet vivant et participation réelle de l'amour de Dieu pour l'humanité et de l'amour du Christ Seigneur pour l'Église, son épouse. Et donc, la famille nous rappelle que les biens matériels ne sont pas faits pour qu'on en jouisse égoïstement, mais on voit bien les parents qui se servent de leurs biens, j'espère pas seulement pour eux, mais pour faire vivre, grandir, éduquer, former leurs enfants. Alors si on pouvait résumer d'un mot, ce serait un peu schématique, mais la vocation de la vie religieuse, c'est de nous indiquer le ciel. La vocation de la famille, c'est plutôt de nous indiquer le cœur de Dieu qui est l'amour. Et dans l'Église, il est important que chacun soit fidèle à sa vocation propre. Et alors, les vocations peuvent se soutenir mutuellement. J'aime particulièrement une réflexion que faisait le père Raniero Cantalamessa quand il parlait à Jean-Paul II et à la Curie romaine en 2002. Voilà ce qu'il disait pour parler justement de cette complémentarité, on pourrait dire, des vocations. La vocation consacrée à la virginité consacrée et puis les personnes mariées. Voilà ce qu'il disait. La virginité consacrée n'est pas une affaire privée, un choix personnel de perfection. Elle est au contraire en vue de l'utilité commune et au service des autres. Si nous sommes consacrés, c'est pour Dieu, mais c'est aussi pour l'Église. Dans l'Église, les personnes consacrées dans la virginité et les personnes mariées s'édifient mutuellement. Les personnes consacrées rappellent au conjoint le primat de Dieu et de ce qui ne passe pas. Les personnes mariées peuvent enseigner aux personnes consacrées dans la virginité la générosité, l'oubli de soi, expérimenté dans le service de la vie et de la croissance des enfants, une certaine humanité qui provient du contact direct avec les drames de la vie. Si donc des familles veulent s'engager aujourd'hui dans les familles du Père Lamy, c'est bien sûr parce qu'elles se sentent sur la même longueur d'onde que la communauté au niveau spirituel, mais c'est pour explicitement donner à Dieu la priorité dans leur vie quotidienne. Et elles attendent de notre communauté justement qu'on leur rappelle le primat de Dieu, la priorité de ce qui ne passe pas. Et quant à nous, religieux, qui avons la chance d'être allégés de bien des soucis sur le plan matériel, il est clair que ce n'est pas pour vivre dans une insouciance un peu infantile, c'est pour que notre unique préoccupation soit Dieu. Saint Paul en parle pour la chasteté en montrant comment la chasteté peut libérer notre esprit pour qu'il soit tout entier occupé de Dieu. Alors de ce point de vue-là, si la communauté peut rappeler aux familles ce primat de Dieu, la priorité de ce qui ne passe pas, pour rappeler le ciel, le témoignage des familles nous est aussi précieux pour notre propre fidélité dans la vie consacrée. Parce que nous-mêmes sommes souvent très touchés par la générosité, l'oubli de soi dont font preuve les parents, pour la façon dont ils vivent cet amour dans le quotidien le plus concret, les difficultés de la vie. Dans cet amour qui n'est pas un amour à l'eau de rose, mais un amour vrai, qui affronte le mal sous toutes ses formes. Alors en rendant grâce au Seigneur pour les différentes vocations qu'il donne à l'Église, pour l'édification mutuelle, nous pouvons aussi nous tourner vers Marie, qui a vécu ces deux vocations, pour qu'elle nous aide à vivre pleinement notre propre vocation, pour que le Seigneur en soit glorifié. Amen.